Histoire de peinture. Aujourd'hui, Alberti disparu, le temps retrouvé.
Pour revenir sur la restauration, il n'y a pas plus anachronique qu'une restauration. L'opération même de restaurer, ça prétendrait, hein, d'une certaine manière, corriger le passage du temps. Et donc intervenir sur ce temps numéro 2 dont je parlais il y a quelques temps, le temps entre la production et la réception, cette durée X, hein, qui a porté ses traces physiques sur l'heure, et ça prétendrait annuler, hein, cette donnée de la temporalité de l'œuvre d'art. Tout simplement, l'œuvre d'art est inscrite dans la temporalité. Alors, c'est donc une opération anachronique, puisque elle prétend, à partir d'aujourd'hui, du regard d'aujourd'hui, des techniques d'aujourd'hui, faire surgir une œuvre qui, dans le fond, n'a jamais existé, puisqu'elle n'est pas l'œuvre originale. L'œuvre originale, les restaurateurs vous le diront tous, ils n'ont aucune prétention à retrouver l'original. Il faut être un restaurateur naïf ou malhonnête pour prétendre qu'on va retrouver l'original. L'original n'existe plus depuis très longtemps. Ou du moins, s'il existe, c'est sous cette forme où l'original du temps 1 est devenu l'original du temps 3, hein, à travers le passage du temps numéro 2. La restauration prétend intervenir dans ce passage des temps, et elle est une opération de sa manière anachronique, même si c'est pas pour retrouver l'original. Et la restauration est du même coup entourée, hein, de débats tout à fait considérables. J'y viendrai tout à l'heure à ces débats, mais avant, je voudrais quand même dire deux mots sur le bonheur qu'il y a à monter sur les échafaudages de restauration. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans les chapelles en Italie, par exemple à Florence, quand on restaurait la chapelle du Carmine avec les fresques de Masaccio et de Masolino. J'ai eu la chance que le Carmine était tout près de l'Institut français, et donc j'ai pu aller régulièrement, je dirais tous les 15 jours, j'allais faire un tour sur l'échafaudage. J'avais plus qu'à frapper, ils me connaissaient, des gens extrêmement sympathiques, et je passais des heures à regarder, appelons ça, oui je me dirais, les progrès, hein, de la restauration, c'est-à-dire la progression, hein, de la restauration. Et il y a eu des moments tout à fait extraordinaires quand, par exemple, ils m'ont montré, les restaurateurs en train de travailler, montré comment les feuilles, on le savait, hein, mais les feuilles d'arbres qui avaient été peintes pour cacher au XVIIe siècle le sexe d'Adam dans Adam et Ève chassés du paradis, bon, moi j'avais toujours connu, je me disais bien, ça cache quelque chose, mais grâce à une caméra, hein, un instrument permettant de pénétrer d'à peu près un demi millimètre, hein, l'épaisseur de la peinture de fresque, qui est très visible, la fresque c'est la pierre, hein, bon, eh bien on peut, ils ont une technique permettant de voir à un demi millimètre d'épaisseur, et là sur l'écran, alors que la peinture avait ses feuilles du XVIIe siècle, sur l'écran, le moniteur, on voyait apparaître ce qui était en dessous. C'est-à-dire, bah, le sexe de notre père à tous, c'est quand même un spectacle émouvant, quand on le voit, alors qu'il est encore caché par les feuilles pudibondes du XVIIe siècle. Et découvrir aussi, quand une fresque est en cours de restauration, de nettoyage, même sans parler encore de restauration, il y a même simple de nettoyage, voir comment le simple fait d'enlever la poussière, la crasse déposée, les repeintures, ou même simplement les... Vous savez qu'à un moment, on passait, pour raviver les couleurs, hein, on passait sur ces fresques une sorte de vernis transparent qui ravivait les couleurs. Mais ce vernis ensuite a lui-même jauni, et la chapelle Brancacci était vraiment magnifique, bien sûr, mais c'était un temple très sombre, et plutôt jaunâtre ou brunâtre. Bon. Et de voir, entre les jambes, je me rappelle très bien, du gardien de la ville, hein, dans la grande scène du tribut du Christ, de voir simplement comment, ayant nettoyé le triangle, hein, entre les deux jambes du personnage vu de dos, on voyait une succession abstraite, hein, de zones d'ombre, lumière, ombre, lumière, ombre, lumière, qui revenait d'un seul coup, ben, l'émotion est très grande, parce qu'on se dit, je ne remonte pas dans le temps, hein, mais disons, voilà, là, je peux voir quelque chose qui était devenu invisible, alors là, à cause du passage du temps. Donc, l'anachronisme, il est pas mal, à ce moment-là, de dire, corriger ce qu'on peut. On va venir après au danger, hein, aussi, de la restauration. Pas mal. Autre moment, je veux dire, magnifique aussi, c'est les fresques de Piero della Francesca à Arezzo, quand, montant sur l'échafaudage, j'ai pu voir à la distance où Piero les avait peintes 500 ans plus tôt, 400 ans, 500 ans plus tôt. J'ai pu voir que, eh bien oui, Piero, décidément, n'était pas un disciple de Léon Battista Alberti, pour la simple raison que les visages de Pierrot sont entourés d'un trait peint à fresque d'une pureté graphique extraordinaire, d'une élégance extraordinaire, mais aussi d'une épaisseur étonnante, parce que le trait a, alors là, vu de près, vu la distance où il est peint, il a quelque chose comme entre 3 et 4 mm d'épaisseur. Donc à cette distance-là, on le voit, le trait, très bien, et Alberti n'aurait pas du tout apprécié, puisque Alberti considérait qu'il ne faut pas qu'on voit le bord de la figure, parce que la ligne de contour, parce qu'il dit ça fait une fissure à l'intérieur de la continuité de la représentation. Mais Pierrot La Francesca, la fissure, il la faisait avec une élégance, une force, une beauté de dessin extraordinaire. Simplement, dès qu'on descendait, bien sûr, on ne voyait plus. Donc là, à nouveau, c'est cette intimité de la peinture qui est donnée par la possibilité de monter sur l'échafaudage de restauration. Je ne dirai rien de la chapelle Sixtine, j'ai une admiration totale pour la restauration qui a eu lieu et qui a bien sûr bouleversé le regard des gens qui l'aimaient avant, et surtout a bouleversé certaines interprétations considérées comme fondatrices et fondamentales du travail de Michel-Ange à la Sixtine. Parce qu'à partir du moment où on s'est rendu compte qu'effectivement les couleurs de Michel-Ange étaient acides, alors d'autres vous diront, mais elle n'était pas acide comme ça. Il se trouve qu'on a retrouvé des fragments de fresques à l'intérieur du mur, parce que le mur était colmaté fin du XVIe siècle, et que j'étais là où on a trouvé ce morceau, et que il y avait une fissure, on avait enfoncé à la fin du XVIe siècle un morceau de fresque à l'intérieur, non pas du mur, parce qu'il y avait des clés en bois pour soutenir le plâtre, etc. Et par-dessus, on avait mis du plâtre, on avait à nouveau bouché les fissures. Et donc quand les restaurateurs ont atteint cette zone, ils ont enlevé ce qui avait été colmaté à la fin du XVIe siècle, et puis ils ont trouvé à l'intérieur un morceau de fresque du début, enfin qui n'avait pas été exposé à aucune transformation depuis 1500, je sais plus, 70, quelque chose comme ça. Extraordinaire, c'est que le bleu, j'en vois, c'est du bleu, le bleu de ce morceau qui avait été à l'abri de toute intempérie, on va dire, depuis donc 1570, était alors extrêmement proche du bleu que le restaurateur avait dégagé à côté. Alors c'est pour ça que je dis les gens qui disent ouais ils ont dénaturé les couleurs de Michel-Ange. Un, ils sont pas montés sur l'échafaudage, la plupart des gens ils sont pas montés. Deuxièmement, qui s'explique alors s'ils croient que les couleurs de Michel-Ange n'étaient pas acides à ce point-là, qui s'explique comment le grand disciple de Michel-Ange Pontormo à Florence peut faire des couleurs aussi acides. Les couleurs tellement acides de Pontormo dans sa fameuse déposition, elles viennent directement de la chapelle Sixtine telle qu'elle était quand Pontormo l'a regardée, non pas telle qu'elle est aujourd'hui. Je ne dis pas que nous avons aujourd'hui les couleurs de Michel-Ange de 1510. Nous avons certainement des couleurs beaucoup plus proches de ce qu'elles étaient en 1510, ce qu'elles étaient en 1985 ou 1980. Donc il y a ces émotions-là. Je veux dire, je suis redevable au restaurateur d'émotions considérables à cause de cette intimité donnée tout d'un coup, soit avec un morceau perdu dans un mur, soit avec un trait de dessin ou des ombres, des lumières dans la peinture, qui était impossible de voir à cause de l'état de la fresque. Alors cela dit, il est clair aussi que l'opération anachronique de la restauration est dangereuse. C'est vrai qu'il y a un véritable problème, et je comprends très bien les protestations ou les inquiétudes des gens qui disent il faut pas restaurer les œuvres parce que en fait on les dénature en prétendant retrouver l'original. Alors il y a un débat légitime. Je pense qu'il faut essayer de le poser honnêtement, sans se faire des procès d'intention. Je crois que les détracteurs ont raison de la restauration, ils ont raison pour deux motifs principaux. Premièrement, les tableaux n'appartiennent pas au musée, ils appartiennent à la collectivité. Et donc, quand on restaure des tableaux, ce n'est pas tel musée qui doit décider qu'il restaure parce que ça lui fait plaisir. Entre parenthèses, je crois que le musée ne le fait jamais dans ces conditions-là. Je crois que le musée restaure un tableau parce qu'il va faire autrement. Parce que sinon, le tableau va disparaître ou va être rescaté. Mais malgré tout, l'inquiétude est légitime. On peut se demander si dans certains cas, on ne restaure pas pour faire un joli coup. Surtout quand on pense que ces restaurations sont sponsorisées de plus en plus par des boîtes privées, des grosses entreprises, qui tiennent à ce que ça se voit. Parce qu'on n'a pas dépensé des millions pour que la restauration donne le tableau comme il était avant la restauration. Il faut un peu comme qu'on parle d'implantation de cheveux, qu'il y a un avant et après. Il faut le tableau restauré où on voit qu'il est restauré pour que Mitsubishi ou Toyota, et pourquoi pas, je sais pas, d'autres, n'importe qui, des Français aussi bien, il n'y a pas beaucoup d'argent de Français, et dépenser leur argent, le conseil d'administration trouve légitime qu'on dépense cet argent pour une telle restauration. Et là, je partage entièrement les soupçons et les inquiétudes des détracteurs de la restauration. Cela dit, il faut équilibrer les choses. Parce que, à part des opérations purement commerciales, et je ne crois pas qu'il y en ait dans les musées, la restauration, tous les restaurateurs que j'ai rencontrés, ou les conservateurs que j'ai rencontrés, m'ont tous dit la même chose, c'est un mal nécessaire. On ne restaure un tableau que quand on ne peut pas faire autrement. Alors, on ne peut pas faire autrement parce que si on ne fait rien, le tableau va progressivement disparaître. Bon, et donc, c'est un mal. Vous ne verrez pas un restaurateur qui vous dira c'est un bien. Mais c'est un mal nécessaire pour sauver le tableau. C'est ça le principe, première règle. Deuxième règle, énoncée très bien par Ségolène Bergeon. Une mauvaise restauration n'est pas une restauration. Alors ça c'est assez abrupt comme point de vue, mais une restauration ratée, c'est pas une restauration. Parce que la restauration, vous direz c'est très théorique, mais la restauration, elle a pour but non pas de refaire voir l'original, mais de redonner des conditions de visibilité, non pas premières, mais simplement plus satisfaisantes que ce à quoi on avait abouti à cause de ce temps de... la durée entre l'original et le temps présent. Ce sur quoi travaillent les restaurations, c'est pas le temps 1, c'est pas le temps de la production. Elle prétend jamais retrouver le temps de la production, le premier temps contemporain de l'original. Non, elle prétend travailler sur le temps numéro 2, celui qui a déformé le temps 1. Alors bien sûr, on peut dire, ah oui, mais c'est ça l'histoire. C'est l'histoire, puis la patine, c'est la patine, et on doit garder la patine. Mais la plupart des restaurateurs tentent, de préserver le plus de patine possible, mais quelquefois, quand il faut sauver le tableau, eh bien, il se repatinera le tableau. À nouveau, il y aura une patine. Bon, pourquoi vouloir que cette patine que j'ai vue quand j'avais 15 ans, ce soit celle éternellement du tableau? Non, le tableau retrouvera sa patine, le temps passera, je serai mort, et on peut espérer que le tableau sera toujours là, à se patiner indéfiniment, il faudra nouveau le nettoyer, etc. Bon, autre élément du débat, c'est le fait que, bien sûr, les restaurateurs, on est toujours dans la même ligne, ne prétendent pas retrouver l'original. Ils ne prétendent pas retrouver l'original, ils savent que cet original a existé, a été, mais que dorénavant, il est dans les limbes, et qu'il n'y a pas d'original. L'original patiné n'est pas plus original que l'original dépatiné, parce que la patine fait partie de l'original, et que cette patine en plus, allez savoir ce qu'il y a dans la patine, parce que bien sûr, quand on dit qu'il faut garder la patine, il faut tout garder, l'image que j'ai eue moi du tableau quand je l'ai vu patiner. Mais en fait, cette patine elle-même, je veux dire, qu'y a-t-il dedans? Bien souvent, une intervention du 17e, 18e, 19e siècle. Doit-on garder l'intervention du 19e siècle qui a dénaturé les couleurs d'un tableau, etc., etc. Alors surtout, ce qui fait que je suis pour moi favorable à la restauration dans sa déontologie, dans sa déontologie minimale, c'est que la restauration non seulement sauve certaines œuvres, petite parenthèse honnête, il arrive aussi qu'elle en détruise. Soyons honnêtes, il arrive, j'ai vu en Italie des cas absolument catastrophiques. Parce que ce ne sont pas des restaurations, ce sont des destructions. Et fermons la parenthèse. Mais une restauration menée déontologiquement, non seulement elle sauve certaines œuvres, mais sur d'autres qu'elle conserve, parce que c'est aussi ça la fonction du musée, c'est de conserver, et pas forcément conserver pour que ça se détruise progressivement, mais de préserver l'œuvre, eh bien en même temps, seulement elle conserve et éventuellement elle préserve, mais aussi elle apprend beaucoup de choses sur l'œuvre. Et ça, c'est un point, je trouve, tout à fait important. Elle apprend beaucoup de choses dans la mesure où les techniques contemporaines, je pense entre autres à la radiographie et la macrophotographie, mais je pense surtout à la radiographie, permettent de mieux comprendre, alors non seulement ce que je vois dans le tableau final, mais aussi quel était le travail du peintre pour arriver à ce tableau final. Je pense ici un exemple qui a déclenché pas mal de polémiques également, la restauration, la déposition de Rosso Fiorentino au Louvre. Bon, j'ai eu la chance d'assister à deux réunions de réflexion, de conseils, de discussions sur la restauration en cours. Et l'honnêteté des restaurateurs et leur prudence, je ne le dirai jamais assez. Mais il y avait un autre point, c'est le fait que la radiographie avait montré, radiographie qui n'est faite que s'il y a une raison vraiment importante de s'occuper de faire une radiographie d'un tableau, donc une restauration. Cette radiographie a montré que Rosso avait complètement changé d'avis en cours de route, parce que sous le tableau que nous voyons encore aujourd'hui à la galerie, dans la grande galerie du Louvre, où le Christ, il me semble rappeler, a le corps, la tête à gauche, peu importe, je crois qu'il a la tête à gauche et les jambes à droite, eh bien, ce qu'on voit dessous, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que Rosso a non seulement changé un détail, mais il a changé en cours de route toute la composition du tableau, dire alors on s'en fiche, parce que finalement ce qu'on voit, c'est ce que Rosso a voulu qu'on voyait. Oui, mais ce qu'on apprend, c'est la liberté d'intervention du peintre sur une œuvre en cours, contre ce que prétend nous faire croire le bon Giorgio Vasari. Aussi, les Florentins étaient capables de changer tout en cours de route. Il n'y a pas que les Vénitiens qui peignaient à même le tableau, dessinaient à même le tableau. Puis deuxièmement, ce qui est fascinant dans le Rosso, c'est que certains des éléments, jambes ou bras ou épaules de la première composition sont gardés rigoureusement identiques dans la deuxième. C'est-à-dire qu'alors qu'il a tout changé, il garde quand même tel élément, mais il appartient plus à la même figure. Et ça, j'ai trouvé, quand j'ai vu ça, et que j'ai compris lentement, parce qu'il faut du temps pour lire une radiographie, comprendre l'enjeu des transformations, là, vraiment, la virtuosité, et je dirais le maniérisme de Rousseau. C'est-à-dire, Rousseau est un des grands peintres maniéristes. C'est lui le créateur de la Galerie François Ier de Fontainebleau, un des plus grands peintres maniéristes de la première moitié, enfin des années, on va dire, 20 et 30 du XVIe siècle. Là, j'ai vraiment perçu, à nouveau dans l'intimité du travail du peintre, qui était caché depuis toujours, parce que ce qu'on voyait, c'est un magnifique tableau maniériste, mais l'intensité, la virtuosité, et comment dire, l'intellectualité du maniérisme de Rousseau surgissait avec une puissance extraordinaire grâce à l'opération de restauration qui avait suscité la radiographie. Ce qui m'a beaucoup touché à ce moment-là, c'était grâce à une technique absolument froide, inhumaine, une radiographie, etc., des rayons X, de réussir à atteindre le peintre au travail. Le peintre au travail et d'avoir une à nouveau, je suis pas naïf, je n'atteins pas le peintre Rousseau au travail dans sa tête même, mais d'avoir tout d'un coup la trace, le témoignage, le vestige d'une pensée en acte, d'une pensée. On a dit que Rousseau était inquiet, c'est un peintre inquiet, c'est un des premiers grands peintres suicidés de l'histoire de l'art, mais cette inquiétude psychologique, je dis non, elle n'est pas psychologique, c'est une inquiétude, comment dire, de créateur, toujours en quête d'une solution, mais la plus à la fois économe et brillante possible. Et ça, cette intimité avec l'invention de Rousseau à même son panneau, je veux dire que c'est la restauration qui permettait de la faire surgir. Et donc, tout en disant la restauration est un élément anachronique, il ne faut pas croire qu'on retrouvera le temps 1, etc. Bon, bien sûr, la restauration ne doit pas être ingénue, honnêtement, elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus, les restaurateurs savent bien qu'ils ne trouvent pas l'original. La restauration, grand élément d'anachronisme dans l'approche contemporaine des œuvres d'art du passé, est en même temps, à nouveau à rebrousse-poil, un instrument pour entrer dans l'intimité des œuvres, je crois, que l'historien de l'art ne peut pas ne pas approuver, parce que je crois que cette histoire, l'intimité de la peinture, c'est aussi une des portes qui s'ouvre.
Histoire de peinture par Daniel Arras. Réalisation Yves Lehors, Jean-Michel Bernot, Jean-Claude Loiseau.